Chapitre 3e, l'orpheline. Le grand Théodose choisissait souvent ses chefs d'armée parmi les barbares, comme disaient les Romains, c'est-à-dire qu'ils n'étaient point d'origine romaine, quoique leurs nations fussent depuis longtemps soumises au sceptre des empereurs romains. Au centre d'une des plus nobles races de la Germanie, chez les Francs, se trouvait, depuis une centaine d'années, la couronne étant devenue trop lourde pour une seule tête, une cour impériale. Trèves était, depuis les Constantins, la résidence d'un Auguste, ou au moins d'un César, d'un co-régnant. Sur les rives poétiques de la Moselle, aussi bien que sur la brillante plage du Bosphore et dans la fertile plaine de la Lombardie, s'élevait un trône impérial entouré de toute la pompe, de toutes les intrigues, les cabales, les actes violents et sanguinaires qui en constituaient alors l'apanage inséparable. La triste époque de débauche et de volupté malsaine qui avait pris plaisir aux tortures des martyrs du christianisme, aux luttes sanglantes des gladiateurs, au dévergondage effréné des théâtres païens, à l'impudeur, plus éhontée encore, du culte des faux dieux, cette époque commençait seulement à disparaître et à s'effacer peu à peu, et dans ce travail de décomposition qu'elle subissait sous l'influence puissante d'éléments nouveaux, elle exhalait des miasmes qui ne pouvaient être étouffés que par l'action graduelle et lente des siècles. Les nations étrangères qui étaient en contact avec la civilisation romaine la méprisaient tout en se sentant vivement piquées de l'ambition de se trouver sur le pied d'égalité avec ces fiers romains. La rudesse de hardis conquérants, jointe à la soif du commandement et des richesses, jointe aussi assez souvent à de grands talents, rendait ces barbares dangereux et redoutés, mais utiles et capables quand ils trouvaient, comme dans l'empereur Théodose, un maître qui leur serrait la bride. Un de ses plus habiles généraux fut Boton, chef franc de noble naissance, qui avait fait plusieurs campagnes heureuses à côté de l'empereur et lui était devenu indispensable. Boton quitta la terre natale de la Germanie pour l'Orient. Il partit de Trèves, emmenant avec lui à Constantinople sa femme et son enfant, afin de passer au milieu d'eux ses courts instants de paix et de repos, car le goût de la famille, le sentiment du bonheur domestique ne s'était pas éteint chez lui dans le tumulte de la vie des camps et des batailles. Homme plein de sens et d'éducation, il attachait un grand prix aux qualités remarquables que sa fille, son unique enfant, avait reçues de la nature. Eudoxia, c'était son nom, faisait les délices de son père par sa beauté et sa vive intelligence, mais il ne devait pas avoir la joie de voir s'ouvrir et s'épanouir ce tendre bouton de fleur. Il mourut dans la fleur de l'âge, après avoir eu la douleur de perdre sa femme, qui n'avait pu cesser de soupirer après les bords de sa chère Moselle et les beaux ombrages de ses noyers. Il mourut, non sur le champ de bataille, mais à la suite d'une longue maladie. Cela lui permit de prendre ses dispositions pour l'avenir et l'éducation de sa fille. Il la confia à un autre général de Théodose, à son ami et son frère d'armes, Promotus, qui n'avait point d'enfant, et promit en mourant de prendre soin de Doxia comme de sa propre fille. Avec cette promesse, Boton mourut tranquille, et Eudoxia, qui se trouvait à 10 ans sans père, sans mère, sans foyer, entra dans la brillante maison de Promutus et y fut reçu à bras ouverts. Promutus avait été consul romain. En souvenir de ce glorieux passé, où régnait à Rome l'amour de la patrie, ce sentiment idéal qui obligeait ses citoyens à la vertu et à l'honneur, on avait conservé l'ombre de cette ancienne institution républicaine, bien que l'Empire romain ne fût depuis longtemps qu'un état monarchique gouverné despotiquement par des généraux heureux. Chaque année, le Sénat romain nommait 2 consuls. Naturellement, c'étaient toujours des personnages non seulement agréables aux empereurs, mais même le plus souvent désignés par eux, de sorte que des barbares avaient pu déjà avoir part à cet honneur et recevoir cette dignité. Cette année de consulat assurait pour toujours à toute une famille de l'éclat, une grande considération. Se trouvait-il dans la même famille plusieurs membres qui eussent été revêtus de cette dignité consulaire, elle comptait parmi les plus illustres. Les empereurs eux-mêmes se faisaient élire avec cette différence que leur consulat était à vie, et comme une sorte de consulat supérieur à côté du consulat proprement dit, qui n'était qu'annuel. Mais ni la faveur de l'empereur, ni son propre mérite, ni sa brillante carrière n'assuraient à Promotus la sécurité personnelle. Il avait pour ennemi un homme que l'empereur Théodose avait comblé de faveurs, au point d'élever ce barbare de basse extraction aux premières dignités de la cour et de l'empire, et de lui confier le gouvernement de l'Orient, dont Arcadius était trop jeune encore pour prendre les rênes, pendant que lui-même, Théodose, était retenu dans l'Occident. Ce favori, ce parvenu, s'appelait Ruffin. C'était un Gaulois de naissance obscure. Théodose, avec son regard pénétrant, avait remarqué son énergie et son habileté dans la masse des officiers de son armée et l'avait appelé à un poste en rapport avec ses capacités. Ruffin devint un puissant personnage. Il fut grand chancelier à Constantinople. En présence de Théodose, Ruffin montrait tous ses côtés lumineux. Pénétration, énergie, courage, intelligence, et tout cela au service absolu de son maître impérial, de sorte que Théodose, ébloui, aveuglé, avait une confiance illimitée dans cet homme qui unissait tant de talent à tant de dévouement. Mais les côtés sombres lui restaient cachés, soit parce qu'il ne voulait pas croire ce qui arrivait à ses oreilles au sujet de l'avarice et des exactions de son ministre, soit parce que Ruffin, par crainte de l'empereur, surtout lorsqu'il était à Constantinople, se tenait sur ses gardes. Cependant, sa cupidité lui attirait la haine du peuple, en même temps que son orgueil effréné le rendait insupportable aux grands. Dans une séance des membres du conseil impérial, dont Promotus et Ruffin faisaient partie, celui-ci montra un tel dédain pour l'opinion d'autrui que Promotus, indigné contre l'insolent parvenu, lui donna un soufflet. Ruffin garda le silence sur cet affront, mais ce silence était un arrêt de mort contre Promotus. Bientôt, dans une partie de la Thrace où les Goths s'étaient établis, des troubles éclatèrent. L'empereur chargea Promotus d'aller les soumettre, et Ruffin prit ses mesures pour qu'il ne revînt plus. Promotus tomba dans une embuscade et fut massacré. Ainsi, après son père, Eudoxia perdit encore son tuteur. Mais la veuve de Promotus, Marsa, femme habile, fière, intrigante, conserva à la jeune Eudoxia l'affection toute maternelle qu'elle lui avait témoignée jusqu'alors. Elle continua à tenir sa maison avec l'éclat princier qui convenait à la fortune, au rang et à la position de son époux, et fit instruire et élever Eudoxia comme s'il eût eu le pressentiment de l'avenir auquel la divine providence réservait cette jeune et charmante créature. Eudoxia étudia le grec et le latin assez à fond pour s'exprimer facilement dans ces deux langues. Elle approfondit les maximes de la religion chrétienne qui, par leur liaison intime, éveille la réflexion, en même temps que par leur sagesse céleste, elles éclairent l'esprit et ouvrent le cœur aux inspirations divines. Eudoxia était née avec toutes les aptitudes voulues pour devenir un très noble caractère sous une influence favorable. Mais l'instruction n'est qu'une partie de l'éducation. L'autre partie, c'est l'exemple. Quelque délicate que puisse être l'atmosphère où l'esprit se meut, si un air tout différent souffle dans les rapports, les tendances, les exemples de l'entourage, cette influence délétère prendra peu à peu le dessus et développera les propensions funestes au préjudice des meilleures aptitudes. La veuve de Promotus n'avait pas de mobile plus élevé que celui-ci. Briller dans le monde, briller par la beauté, par l'esprit, par la fortune, par le pouvoir, par l'influence, par le luxe, être la première au premier rang, voilà le but de tous ses efforts, voilà la boussole qui réglait sa vie. Cependant, Marsa n'était point une femme à laquelle on pût infliger un blâme moral. Mais il eût été aussi impossible de lui donner un éloge basé sur des qualités solides. Elle passait la plus grande partie du jour dans son boudoir avec un essaim de servante pour ordonner, choisir, désigner les 1000 soins que sa toilette exigeait. Quand les dames du grand monde se montraient en public dans la ville, leurs robes et leurs manteaux étaient blancs avec une bordure de pourpre brodée d'or. Les vêtements de couleur n'étaient portés au dehors que par les dames de condition inférieure et d'une réputation plus ou moins douteuse. Mais dans l'intérieur de leur maison, ou bien quand elles résidaient à la campagne, les grandes dames étalaient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour trancher sur la noble simplicité de leur tenue d'apparat. Marsa suivait cet usage. Elle changeait 20 fois de robe, de parure, de bijoux, avant d'avoir fixé son choix pour la journée. Une seconde occupation des grandes dames était l'achat des objets relatifs à la toilette et à l'ameublement. Les soies les plus épaisses, les laines les plus tendres, les pierres fines et les perles, les essences les plus rares, les onguents et les parfums, les vases, les coupes, les écrins en matière précieuse et de forme élégante, sans oublier les recettes pour la beauté et les diverses couleurs du fard, tout cela était indispensable, et c'était le sujet d'interminables conseils et de profondes réflexions. S'agissait-il de recevoir ou de faire des visites, ou d'assister au jeu du cirque, ou bien encore d'aller à l'église, surtout pour entendre un prédicateur en renom, alors la journée était remplie des soins les plus considérables, et c'était avec un grand sentiment de satisfaction qu'on se livre le soir au repos habituel. Ainsi vivait Marsa. Ainsi vivaient ses deux fidèles amies, Eugraphia, la veuve d'un grand dignitaire de la cour, et Castricia, épouse du général Saturnin. Elle donnait le ton au monde élégant de Constantinople, elle rivalisait de luxe, de magnificence et de prodigalité, et faisait un tour immense, parce qu'une foule de dames s'efforçait de les imiter, pour être comme elles, l'objet de l'admiration et de l'étonnement public. Au milieu de ces influences, Eudoxia grandit en développant une beauté éblouissante.